France Inter, 7h.
France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Vendredi 5 juin, bonjour et bon réveil à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une émouvante cérémonie d'hommage à George Floyd à Minneapolis. Famille, amis, personnalités sont venus exprimer leur chagrin et dire aussi leur espoir que leur pays change enfin. Les autres titres, Agnès.
L'article du Lancet sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine définitivement enterré. 3 des 4 auteurs ont retiré leur signature. Le blues de certains élus les Républicains après des alliances avec La République En Marche pour les municipales. Elles font partie des transports de demain, des trottinettes Blabla Ride à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Trop de monde, pas assez de gestes barrières, un bar de Perpignan décide de refermer ses portes. Et puis ils ont retrouvé masqué le bonheur de jouer ensemble. Les musiciens de la Philharmonique sont de retour.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec Karine Bécard. Bonjour Karine.
Bonjour, c'est une femme réputée pour son franc-parler. Sa campagne, on l'a oublié, avait assez mal commencé. Et puis les sondages, petit à petit, lui ont laissé penser qu'elle pourrait l'emporter. Arrivée deuxième, espère-t-elle encore s'imposer dans la bataille pour Paris? L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, ancienne députée européenne, Rachida Dati est notre invitée tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président du Conseil scientifique, conseil qui accompagne le gouvernement depuis le début de la crise du coronavirus. Le professeur Jean-François Delfrécy répondra à nos questions. Le standard est déjà ouvert, le 01 45 24 7000 attend vos questions. Vous pouvez aussi les poser sur l'application France Inter.
France Inter.
8 minutes et 46 secondes d'un silence pesant respecté par les milliers de personnes rassemblées hier soir à Minneapolis. 8 minutes et 46 secondes, c'est le temps qu'a duré l'agonie de George Floyd, asphyxié par le genou d'un policier blanc. Une cérémonie empreinte de tristesse, mais aussi d'espoir. « Tu as changé le monde, George », a notamment déclaré Al Sharpton, leader américain des droits civiques. Cérémonie suivie par Loïc Louis.
Un cercueil doré entouré de fleurs et de photos, un portrait de George Floyd s'affiche derrière l'estrade, la copie d'une fresque murale peinte la semaine dernière à Minneapolis à quelques mètres des lieux de son agonie.
Ce n'est pas le coronavirus qui a tué George Floyd, c'est une autre pandémie avec laquelle nous sommes beaucoup trop familiers en Amérique. Racisme et discrimination.
Après Ben Crump, avocat des Floyd, la famille est à la tribune et raconte George, sa passion pour LeBron James, sa relation avec ses frères. L'un d'eux, Philonise, demande une nouvelle fois justice. Vous savez, je reste fort, tout le monde veut la justice, nous voulons justice, et il l'aura, il l'aura. Mais c'est Al Sharpton, figure des droits civiques, qui électrise la salle à coups de formules bien senties et d'appels à une prise de conscience collective. La raison pour laquelle nous marchons partout dans le monde, c'est que nous étions comme George, nous ne pouvions plus respirer, et pas à cause d'un problème au poumon. Non, parce que vous gardiez votre genou sur notre cou. Le premier d'une série d'hommages qui culminera lundi avec les obsèques de George Floyd à Houston, la ville où il a grandi. New York, Loïc Loury, France Inter. Time
out. Et d'autres manifestations ont eu lieu hier soir à Washington, Los Angeles et Seattle. 50 000 personnes également hier soir à Vienne, en Autriche. Et 2 000 personnes à Lille avec quelques incidents en fin de manifestation. Sur franceinter.fr, vous pouvez retrouver le portrait de l'ex-footballeur américain Colin Kaepernick, qui le premier a mis un genou à terre pour dénoncer les violences policières et le racisme. Le chef de l'opposition au Venezuela, Juan Guaido, aurait trouvé refuge dans les locaux de l'ambassade de France à Caracas. C'est ce qu'affirme ce matin, le ministre des Affaires étrangères vénézuélien. Un autre opposant au régime de Nicolas Maduro serait réfugié au sein de l'ambassade d'Espagne. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Cette fois, c'est le coup de grâce. 3 des 4 auteurs de l'étude sur l'hydroxychloroquine publiée dans The Lancet se rétractent après avoir relevé des doutes sur les données fournies par une start-up américaine, désormais au cœur de la polémique. Aurélien Tirard.
Un nom concentre les critiques, c'est Surgisphere. Cette société est supposée avoir collecté pas moins de 96 000 données pour réaliser cette étude. Sur le papier, la publication affiche donc une base de données conséquente et diversifiée, sauf que ses auteurs disent ne pas être en mesure de vérifier les informations qui orientent leur analyse, en l'occurrence sur la nocivité de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre le Covid-19. Par conséquent, ces chercheurs ne peuvent plus, je cite, garantir la véracité des sources des données primaires, c'est-à-dire des données brutes. Le quatrième auteur, lui, ne s'est pas rétracté, le chirurgien Sapan Desai est le fondateur de Surgisphere. Affaires. Ses trois collègues présentent leurs excuses pour le désagrément causé. En effet, leur travail a conduit l'OMS à suspendre temporairement le recrutement de patients sous hydroxychloroquine dans un vaste essai clinique. En France, 16 études cliniques qui testent cette molécule restent suspendues en attendant un éventuel feu vert de l'Agence du médicament.
La France, condamnée hier par la Cour européenne des droits de l'homme, 11 ans après la mort de la petite Marina, après des années de sévices infligées par ses parents. L'enfant avait été entendu par les gendarmes, hospitalisé pour des brûlures et des fractures. La famille était suivie et l'école avait fait plusieurs signalements. Mais personne n'a pris la mesure du danger. Les services sociaux et la justice ont failli à protéger l'enfant, ont estimé les juges européens.
7h06, la suite du journal. Agnès Soubiran, les Républicains à l'épreuve des municipales.
Opposants dans certaines villes, alliés dans d'autres, les élus, les Républicains ont du mal à définir une stratégie précise vis-à-vis de La République En Marche. On ne va pas s'associer avec des gens dont le but premier est de nous voir disparaître, disait Christian Jacob, patron des LR l'été dernier. C'est pourtant ce qui s'est passé à Strasbourg, Bordeaux, Clermont-Ferrand ou encore à Lyon. Élodie Forêt.
Nous ne sommes plus le wagon, mais la locomotive. À la direction du parti, on se rassure, vantant le bon bilan du premier tour. Pour Annie Genevard, présidente du Conseil national, ce ne sont donc pas quelques alliances qui vont gâcher la fête.
L'exemple de Bordeaux est intéressant parce que le candidat de La République En Marche s'est rapproché de Nicolas Florian, mais Nicolas Florian garde la majorité absolue s'il est élu. Il mènera son projet. C'est un maire républicain. Ce sera une ville gagnée par les Républicains. Donc je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
Et les cadres de mettre en garde, ne pas tirer de conclusions nationales à partir de situations locales où les alliances pour gagner ont toujours existé. Mais au sein du parti, ces mariages ne sont pas forcément bien acceptés. Julien Aubert, député du Vaucluse.
Il faut faire attention, je dirais, à ne pas brouiller notre message, parce qu'à la fin, on va avoir du mal à déterminer notre identité politique. Je crois qu'on a besoin, si vous voulez, de montrer que nous sommes une opposition au président de la République, et donc on ne doit pas mélanger nos deux forces politiques.
Une crainte partagée par de nombreux élus, que la droite ait des difficultés à construire son récit, opposant un jour, allié le lendemain, piégé, redoute un conseiller dans un bloc des libéraux, auquel le RN et la gauche nous renverront sans cesse.
Et rappelons qu'à 8h10, Rachida Dati, candidate à l'air à la mairie de Paris, sera l'invitée de Karine Bécard. Des aides pour soutenir l'apprentissage, c'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet au 28 février 2021 recevront une prime à l'embauche, 8000 euros pour les majeurs, 5000 euros pour les mineurs. D'autres chantiers sont en cours, notamment le suivi des 800 000 jeunes qui vont sortir cet été du système scolaire ou universitaire. De nouvelles trottinettes sur les trottoirs des grandes villes ce matin. Des trottinettes au logo Blablacar. La start-up a décidé de se diversifier en s'alliant avec Voi, un opérateur suédois, leader de ce type de transport. Blablacar entend ainsi surfer sur la vogue des transports alternatifs. Maxime Debs.
Le covoiturage longue distance, les cars avec Blablabus et maintenant les trottinettes. Message envoyé, Blablacar veut être de toutes les mobilités, ne surtout laisser personne au bord de la route. Nicolas Crusson, son directeur général.
Avec un compte sur Blablacar, je vais pouvoir me connecter avec mon même compte Blablacar et faire du covoiturage domicile-travail. Je vais pouvoir me connecter et réserver aujourd'hui un bus. Et avec le même compte, je pourrais faire la trottinette électrique.
Car le marché de la trottinette est loin d'être anodin, avec près de 20 000 de ces engins aujourd'hui déployés rien qu'à Paris. Et cette tendance qui s'accentue de vouloir tenir la voiture loin des villes. Blablacar ne peut rester absent d'un tel créneau après un confinement qui a par ailleurs été difficile pour la société. Des voitures restées au garage, des autocars à l'arrêt. L'offensive menée sur ce nouveau segment est donc un pari que le directeur général de Blablacar espère bien gagnant.
Le projet en septembre, quand tout le monde sera de retour au travail, très probablement, pas tout le monde va reprendre le métro ou les transports en commun. Et donc, on peut anticiper quand même une demande très très forte vers tous ces engins. Là où le transport partagé va peut-être prendre un peu de temps à revenir à la normale, tout ce qui est vélo et trottinette dans les villes devrait être causé.
Pour commencer, les couleurs de BlaBlaRide seront visibles dans les quatre métropoles que sont Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, avec l'espoir, bien sûr, d'un déploiement plus vaste dans les prochains mois.
C'est le jour J pour le déconfinement dans les EHPAD. Les règles sont assouplies pour permettre des visites dans les chambres et en présence des enfants. La situation est bien sûr évaluée établissement par établissement. Le bilan global publié hier soir est encourageant. Le nombre de patients en réanimation baisse encore. 47 lits libérés en 24 heures. Mais le virus continue de circuler. 767 nouveaux cas de contamination enregistrés hier. D'où le coup de poing sur la table du préfet des Pyrénées-Orientales. Les bars et les restaurants ont rouvert en en zone verte, mais tout n'est pas possible. Ce que visiblement ont oublié certains habitants de Perpignan. Béatrice Duguay.
Ils l'attendaient tellement, cette réouverture, les Perpignanais comme pas mal d'autres Français d'ailleurs, qu'ils sont tous sortis, ou presque, des rues du centre-ville noir de monde, déconfinement totalement décomplexé, comme si l'épidémie n'était qu'un lointain souvenir, constate Cynthia, l'une des commerçantes du secteur.
C'est incontrôlable. Les gens, ils rentrent, ils n'ont pas de masque. Enfin, c'est comme si c'était tout était normal. Et dans l'espace ouvert comme au Léal, c'est compliqué parce que les gens, ils sont les uns sur les autres. Et après, je pense que les propriétaires, ils peuvent rien faire. Hein.
C'est toute l'impuissance ressentie par Aymeric Jenson, le patron du bar des Halles.
Donc on ferme à partir d'aujourd'hui.
La mort dans l'âme, dépassé par l'affluence et les circonstances, il ne veut pas faire la guerre à ses clients non plus.
J'ai pas peur pour ma santé parce que c'est vrai qu'on est dans un département où il y a plus de cas, que les gens se sentent un peu en sécurité. Je pense que c'est pour ça que notre clientèle a réagi comme ça le premier jour, hein, en sortant massivement, sans masque. Ce qui nous fait peur, après, c'est de ne pas pouvoir maîtriser cette situation. On sait qu'on ne fait pas les choses comme il faut, donc on se sent un peu hors la loi. Et là, maintenant, c'est sûr qu'on ne veut pas prendre de risques. Tant que ces mesures seront là, on ne pourra pas les faire respecter à notre clientèle.
Clientèle pour laquelle le danger n'est plus palpable. Grave erreur pour le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin.
La semaine dernière, pour vous donner un exemple, on avait dans l'hôtel Covid que nous avons ouvert, il y avait zéro patient, il y en a trois aujourd'hui, et il y avait personne à l'hôpital et il y a deux personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui.
Preuve que le virus circule toujours, à bas bruit.
Et c'est par mesure de précaution que le défilé traditionnel du 14 juillet sur les Champs-Élysées n'aura pas lieu. Il sera remplacé par une cérémonie militaire place de la Concorde, avec un hommage particulier au personnel soignant. Enfin, c'est un vrai bonheur.
Les notes de musique résonnent de nouveau dans l'auditorium de Radio France Agnès.
Oui, les formations symphoniques ont repris le chemin des répétitions pour un cycle de concerts intitulé Le Temps Retrouvé. Ils seront donnés en direct mais sans public pour France Musique et Arte Concert à partir de demain. Stéphane Capron s'est glissé masqué parmi les musiciens du Philharmonique.
Protocole sanitaire oblige, les musiciens doivent répéter avec leur masque. Ils auront le droit de le retirer pour le direct. Ji-Yoon Park est la première violon du Philharmonique.
C'est très compliqué. En tout cas, j'ai jamais jouer avec un masque, il y a des contraintes, mais finalement, on est très content de jouer ensemble. Du coup, on oublie un peu ces contraintes.
Les pupitres sont à plus d'1,50 m de distance, mais l'essentiel est là pour le violoncelliste Renaud Guilleux, le plaisir d'être ensemble.
Excitant, un peu angoissant parce qu'au début on savait pas trop comment ça allait faire. Justement, on jouait avec des masques, on est assez loin les uns des autres. Petit à petit, on retrouve nos marques, même si c'est pas tout à fait les mêmes que celles d'avant, mais voilà, ça fait vraiment du bien.
De la profondeur des métamorphoses de Strauss à la mélancolie des pièces d'Arvo Pärt, la crise sanitaire a contraint Michel Laurier, le directeur de la musique à Radio France, à puiser dans le répertoire des œuvres pour 40 musiciens maximum.
On l'a pris aussi comme un jeu et on a fait de cette contrainte une sorte de guide artistique, ce qui nous permet d'aller visiter des partitions qu'on n'a pas forcément l'occasion de jouer quand on est vraiment dans le grand répertoire symphonique, et on a pu sortir des petits bijoux.
Le point d'orgue de ce cycle, Le Temps Retrouvé, sera le concert de Paris du 14 juillet.
Et des concerts sont à retrouver jusqu'au 23 juillet sur France Musique et RT Concert.
Et des concerts pour tous les goûts. Merci Agnès Soubiran.